Et il reste plusieurs portes, mais je veux voir encore trois portes aujourd'hui. On va poursuivre notre restauration des portes. Et pour moi, ces trois portes parlent du Saint-Esprit. Moi, ce matin, j'aimerais restaurer, j'aimerais encourager, nous encourager à restaurer la porte du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit présent dans son Église. Et donc, à partir de verset 13, c'est là où on est arrivé, Néhémie chapitre 3, verset 13, on va regarder trois portes qui restaurent, ce sont des images bien sûr, mais la réalité du Saint-Esprit dans son Église. Donc, verset 13, « Hanoun et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. » Donc, la vallée, c'est drôle de commencer avec une vallée quand on parle du Saint-Esprit. Mais vous savez, quand Jésus, il y avait ce moment dans le Nouveau Testament, sur la montagne de la Transfiguration, et il y a les lumières, c'est magnifique. Il est transfiguré, c'est magnifique. Et moi, j'aimerais bien que ma vie soit toujours comme ça. Que ça soit toujours sur la montagne, avec Jésus, magnifique. Mais on voit après la montagne, il fallait descendre où ? Dans la vallée. Il fallait descendre dans la vallée. Et donc, j'aime bien ça. Jésus n'a pas vécu juste sur la montagne. Jésus n'a pas vécu juste sur la montagne. Alléluia. Jésus a choisi de quitter la montagne pour descendre dans la vallée où il a rencontré des problèmes humains. Un garçon démonisé, des problèmes de famille, des histoires sans fin, l'échec des disciples, l'échec de l'Église pour clarifier des choses, pour guérir. Moi, j'ai dit, Alléluia Seigneur, tu es entré dans notre réalité. Et donc, cette vallée, c'est la réalité de nos vallées. Qui n'a pas de vallée dans leur vie? Moi, j'aimerais bien vous parler de mes expériences de montagne. Je ne sais pas si j'aimerais vous parler de mes expériences de vallée, mais nous avons tous des expériences de vallée. Ça fait partie de la vie, des expériences où on est vraiment au fond et on est dans la vallée. Mais ce qui est super, c'est que Jésus a dit, c'est bien que je m'en aille. Il a dit ça à ses disciples. Parce que si moi je m'en vais, je prierai le Père et il vous enverrait un autre consolateur. Et le Saint-Esprit est consolateur. Il est consolateur. Peut-être on peut voir ça quand même dans Jean 16, parce que j'aimerais bien souligner le mot. Jean 16 et verset 7, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Le Consolateur. C'est quand on console quelqu'un. Souvent, c'est avec un bras. C'est pas juste avec des paroles, c'est avec une présence. Et moi, j'aime beaucoup la réalité du Saint-Esprit comme Consolateur. Souvent, quand on parle du Saint-Esprit, c'est comme si on le prive de sa réalité humaine. On a une tendance à dire la puissance du Saint-Esprit. La puissance. Et c'est vrai qu'il y a une puissance. On viendra à ça. Mais je dirais, le Saint-Esprit a une personnalité plutôt qu'une... Si, il a une puissance, mais il est plus une personnalité qu'une puissance. D'accord? Une personnalité qu'une puissance. Et il est la personnalité de Jésus. Parce que Jésus n'est pas juste historique. Jésus n'est pas juste une histoire de, voilà, le barbu qui a marché en sandales, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. Ça, c'est de l'information, tout ça. Ça, c'est bien. C'est bien d'avoir de l'information, mais ce n'est pas l'information qui vous change. C'est une relation réelle. C'est une personnalité qui vous change. C'est une présence qui vous change. Et quand cette présence est là, si c'est juste le jugement et la condamnation, un Dieu en colère tout le temps. Mais là, Jésus a pris la colère de Dieu. Jésus a satisfait la justice de Dieu en mourant sur une croix. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangélisation. C'est pour que nous, maintenant, nous pouvons connaître un consolateur. un Dieu qui console. Et quand vous êtes dans la vallée, quand je suis dans la vallée, j'ai besoin d'un consolateur. Je n'ai pas besoin d'un condamnateur. Et Dieu est tout sauf condamnateur. Il dit, je vais vous envoyer un autre condamnateur. Je pense que certaines personnes ont perdu leur Bible quelque part. Je vous envoie le condamnateur. Jésus n'a jamais dit ça. Heureusement pour Pierre, non, dans son échec. On ne sait pas ce qui se passait avec tous ces hommes. La Bible ne parle pas beaucoup de leur vallée, mais on voit la vallée de Pierre un jour. Je vous envoie un condamnateur, non, je vous envoie un consolateur. Et donc, quand vous êtes dans la vallée, recevez le consolateur, la personnalité du Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas de toutes ces histoires de, voilà, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, est-ce que je parle en langue, est-ce que je ne parle pas en langue. Bon, on peut parler de ça plus tard. Mais ça, c'est deuxième rang pour moi. Le premier rang, c'est est-ce que vous connaissez le Consolateur? Quand vous êtes là dans votre vallée, est-ce que là, vous sentez une personnalité, une main qui est avec vous? Allez, on va aller plus loin parce qu'il y a trois versets, et il y a probablement plus, mais je vous donne trois versets de vallée dans la Bible. Vous connaissez ces paroles, hein? Le psaume 23. Le psaume 23 qui est... Ah, merci Seigneur. Ce psaume est inscrit même dans le patrimoine de l'humanité, je dirais. C'est super. Hein, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et après, voilà, verset 4. Verset 4. Quand je marche dans la vallée, voilà. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Qui n'a pas connu cette vallée de l'ombre de la mort, l'ombre du péché, là où on a perdu notre vitalité, là où on a perdu notre jeunesse en Jésus, notre premier amour, là où on est découragé, déprimé. Ça arrive, hein, ça arrive. On ne vit pas toujours sur la montagne. Il y a des moments de découragement. Mais quand je marche, même dans le péché, même dans l'ombre de la mort, il dit, voilà, je ne crains aucun mal. Même si je suis attaqué par les forces démoniaques, parce qu'il y a aussi ça. Quelquefois, nous, on ouvre la porte à l'ennemi. Hein. Pour pas toujours blâmer Satan, hein, si on l'invite. Mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es la présence. Tu es avec moi. Peut-être on aurait pu venir ici ce matin dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu es avec moi dans ce moment de louange là, on a senti sa présence. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Encore mon réconfort. Le consolateur est là, mon réconfort. Et moi, mon désir et le désir de Dieu ce matin, c'est que vous soyez réconfortés. Que quand nous venons à l'église, c'est pour être réconfortés. Consolé, encouragé par la présence de Jésus, par ce verset, par la parole de Dieu ce matin. Soyez réconfortés. Accueillons le réconfort de Dieu. Comme sa houlette est là, voilà, son bâton. Seigneur, allez, je veux être de nouveau dans le troupeau. Allez, je veux être avec toi. Merci Seigneur pour... Tu me donnes la victoire dans cette vallée de l'ombre de la mort. Mais après, on peut tourner encore quelques pages pour trouver une autre psaume. Et c'est le psaume 84. Le psaume encore magnifique, David. C'est moi, j'aime beaucoup David parce que c'est un vrai homme. il a ses montagnes, mais il a beaucoup de vallées, David, dans sa vie. Mais... La vallée, quelle créativité dans la vallée, quelle créativité! Tous ces psaumes qui nous bénissent, ils ont été souvent écrits dans la vallée. Donc même si vous êtes dans la vallée, c'est une opportunité de grâce aussi. C'est une opportunité de grâce. Et après verset 6, là, on va commencer avec verset 6 du psaume. Heureux les hommes. Ouais, merci, il y a le bonheur. Heureux. Et les femmes, hein. Heureux les hommes et les femmes, dont la force est en toi. C'est ça le Saint-Esprit, ils ont dans leur cœur les chemins tout tracés. Il y a une destinée dans chacun de nos cœurs, avec le Seigneur Et il y a des chemins tout tracés avec le Seigneur. Et quelquefois, nos chemins, ça passe par des vallées. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca. Vous savez, Baca en hébreu, ça veut dire larmes, pleurs. Qui ne pleure pas dans ce monde? Qui ne pleure pas? Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui... Toutes ces misères, toutes... Mais on va traverser ces vallées. On va traverser des vallées de Baca. Mais même quand on traverse que mes larmes, il dit dans la Bible aussi, David, il écrit ça aussi, l'Éternel entend la voix de mes larmes. Et donc, on peut même, il dit, il ramasse même les larmes dans une bouteille. C'est comme une intercession, c'est comme même nos larmes, on peut en faire, qu'est-ce qu'il dit, un oasis. Une oasis, on peut faire une oasis. Ils en font une oasis. Merci Seigneur. On peut même être, pas dans l'instant même, parce que c'est toujours pénible de pleurer, mais quelquefois ceux qui sèment en larmes, ils récolteront avec cris de joie. Et donc des larmes arrosent notre avenir quelquefois. Il faut beaucoup de foi pour croire ça. Mais le consolateur peut être à côté de nous et de dire il y a toujours demain. Il y a toujours demain. Il y a toujours demain. Il y a toujours de l'espérance. Il y a toujours de l'espérance. Et donc si vous êtes dans la vallée de Baca ce matin, peut-être on peut en faire une oasis aussi. Une oasis de possibilités futures. Les larmes, ce n'est pas la fin de l'histoire de l'humanité. Parce que la fin de l'histoire, Dieu essuie des larmes. Et il guérit des cœurs. Il y a une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Il fait une recréation de l'humanité. On retrouve le jardin d'Éden. Mais il restaure, il fait une nouvelle création. Et c'est ça, comme Néhémie restaure des portes. Dieu est en train de restaurer l'humanité par l'Église, par ce royaume qui avance. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite. On est dans ce projet cosmique. Commence avec mon petit cœur, Seigneur. Commence avec mon petit cœur. Restaure-moi. Et donc, une troisième vallée, c'est peut-être ma vallée préférée. C'est en Osée. Osée 2. C'est la vallée de l'intimité d'un côté. C'est vraiment... Peut-être je vais commencer chapitre 2 à partir de verset 16. Et c'est l'histoire d'Osée. C'est, Dieu utilise la métaphore que le prophète doit se marier avec une femme qu'il n'aime pas, qui est infidèle et tout le reste. Il dit, oh mais tu dois l'aimer quand même. Et moi, Seigneur. Mais il aime, comme Dieu aime une église infidèle quelquefois. Et après, il y a un travail où il dit, je vais la séduire de nouveau. Je vais restaurer son premier amour. Et en verset 16, chapitre 2 de Osée, c'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi, je la conduirai au désert. C'est, il y a des moments de désert dans notre vie. C'est quand vous êtes dans le désert, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a que de consolation. C'est vrai, quelquefois, quelques esprits religieux peuvent essayer de nous condamner. Il faut comprendre qu'il y a des moments dans la vie où il y a les déserts, où on a besoin de ces déserts. Ce n'est pas toujours agréable d'être dans le désert sans eau, où on n'arrive plus à prier, quelquefois on n'arrive plus à faire des choses. Mais il faut survivre. Et même Dieu, il dit, je la conduirai au désert. Il a conduit même Jésus dans le désert où il a été tenté pendant 40 jours. Ça a dû être pénible. Ce n'était pas une partie de plaisir, c'était réel. Il a vécu ça réellement comme un homme en chair et en sang. Peut-être il frôlait le... Peut-être il avait des pensées de suicide. Là. Je ne veux pas non plus aller trop loin, mais il était tenté, il dit en hébreu, comme nous. Tenté comme nous. Mais même là, il y avait une possibilité d'avoir la consolation. C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Ça c'est dans les moments difficiles, c'est nos cœurs qui s'ouvrent quelquefois. Bon, il faut prier que notre cœur ne s'endurcisse pas dans ces moments, c'est ça l'enjeu. Mais même si notre cœur s'endurcisse, Dieu est plus fort que l'endurcissement. Quelquefois même ça c'est un processus que Dieu prend le temps pour guérir. Moi je parlerai à son cœur Et de là, de ce désert, de ce temps de difficulté, de là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor. Et la vallée d'Accor. Accor, en hébreu, ça veut dire problème et trouble. Problème et trouble. Et on est tous dans les problèmes et des troubles quelquefois. Et dans cette vallée d'Accor, je vais le donner comme une porte d'espérance. Alléluia. Comme une porte d'espérance. Et là, je dirais, c'est ça que le consolateur, c'est comme un semeur. Et il sème de l'espérance dans notre cœur. Et que Dieu sème de l'espérance dans votre cœur ce matin. Que le consolateur, le Saint-Esprit, sème de l'espérance. Parce que c'est ça, c'est la semence qui vaincre l'ennemi. L'ennemi déteste la semence de l'espérance. Il veut vous garder dans vos problèmes, dans vos troubles. Il veut dire, il n'y a plus d'avenir, il n'y a rien, je ne peux pas m'en sortir. Mais laisse le Seigneur semer dans votre cœur ce matin. C'est cette abondance, même une générosité d'espérance. J'espère, Seigneur, merci pour l'avenir qui est devant moi. Tu restaureras les années que les sauterelles ont dévorées. Seigneur, tu accompliras tes promesses sur ma vie. Et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et après, c'est magnifique. Elle y chantera comme au temps de sa jeunesse. Oh Seigneur, fais pour neuf. Elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Vous vous souvenez ces moments où vous avez quitté l'Égypte? La conversion, l'espérance, Jésus, mon bien-aimé, on est tellement enthousiaste. Et après, les années passent, on est dans le vallée d'Accor, les problèmes, les réalités de la vie. Mais voilà, Seigneur, console-moi. Tu sais ce que j'ai vécu. Viens, Saint-Esprit, consolateur, et que tu restaures mon intimité et ma vie avec toi. Et donc voilà, retournons à Néhémie. Et chapitre 3, voilà, la vallée. La vallée appelle le consolateur, Saint-Esprit. Et après, on a une autre porte, verset 14, chapitre 3. Il répare la porte du fumier. Wow! Oh. C'est en Afrique, je prêchais ce message une fois, ou ce n'est pas exactement le même message, mais je parlais de la porte du fumier. Et dans la traduction en sango, c'est pourou, pourou. Mon traducteur, il disait pourou, pourou, pourou. Et tout d'un coup, j'étais devant 500 personnes et tout le monde était choqué. Les gens commençaient à critiquer le traducteur. Et il dit non, non, c'est marqué. Et eux, ils ont utilisé dans leur langage le fumier est traduit avec le grand mot M. Tu vois, notre mot. Et donc, dans l'église, il avait dit la porte. Et je pense que dans l'hébreu, non mais d'un côté on dit en anglais, je ne vais pas vous choquer en anglais, mais il y a quelquefois aux États-Unis, on voit, il y a les autocollants derrière les voitures. Et un autocollant qui était très connu, quelqu'un a écrit « shit happens hein? ». Les choses difficiles arrivent, tu connais ça? Oui, en anglais je peux le dire, on ne peut pas dire en anglais. Si j'étais en anglais, je ne pouvais pas dire, mais « shit happens ». Et dans notre vie... Bon, excusez mon français, les emmerdes arrivent quelquefois. On est là. Et on lutte. Encore une petite histoire. C'était terrible. Hein, je suis marqué à vie par cette histoire. Au début de ma vie missionnaire, hein, on avait une petite maison. C'était notre première base missionnaire avant d'évoluer au Château Blanc. Là, on avait une toute petite maison, 8 rue des Dahlias. Et on avait une équipe missionnaire dans cette maison. On était 7 ou 8 personnes. On priait, on travaillait. Et bien sûr, on priait. Mais en même temps, les gens, ils devaient aller aux toilettes pendant la journée. Hein. Même si on est spirituel, on doit y aller. Hein. Et donc, toute une journée, voilà, les gens allaient. Et moi, à la fin de la journée, j'arrive et je vois une toilette. Ça débordait. Mais j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai essayé de tirer. Ça commence... Mais bon, les gens ils se contentent tant que ça déborde. Et bon, ça va. Mais et quelquefois c'est comme ça dans nos vies. Voilà, tu sais, la porte du fumier, Dieu nous appelle à la sainteté. C'est le Saint-Esprit, d'accord. Et il veut pas le péché. Il ne veut pas des choses sales dans notre vie. Et il nous appelle à la sainteté. Je peux citer 10 000 versets pour ça. Mais quelquefois, tant que ça ne déborde pas trop, ça va. Et je dirais que c'est très simple, la grâce. Excusez mon image, hein, je sais que c'est assez choquant, mais on peut toujours tirer la chasse. Hein. C'est ce matin dans la louange, bon, pardon Thierry Ostroni, il écrit des choses, l'eau qui coule, sans, mais moi je pense, allez, tire la chasse, arrosez, et ça part. Et ça, c'est le mécanisme que Dieu a fait pour nous. Il nous a donné la repentance, la grâce, pardonne-moi Seigneur, je suis un pécheur, on tire, ah, c'est fini, c'est évacué. Mais le problème, c'est quand ce qui m'est arrivé, quand ça bloque, qu'on tire, on tire, on tire. Et ça ne part pas. Mince. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, les problèmes arrivent. Et bon, j'ai dû mettre ma main. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un qui avait bloqué ça, je ne sais pas, avec toutes sortes de trucs. Et j'ai dû aller. Boum. Après, j'ai lavé ma main. Après, j'ai tiré. Et tout est parti. Et donc, restaurant, tu sais, la porte de fumier n'était pas pour ramasser et garder la fumier. C'est une porte pour évacuer. D'accord ? Pour évacuer le fumier. Et si nous voulons avoir plus du Saint-Esprit, que notre mécanisme marche, qu'on puisse tirer la chasse dans notre cœur, hein, que la porte de fumier fonctionne bien, qu'on dit, voilà Seigneur, pardonne-moi, je renonce à ces péchés, je ne veux pas que ça reste bloqué. Et le problème, c'est que quelquefois, on construise des idoles dans notre vie. Et vous allez bloquer votre porte de fumier quand vous aimez votre péché plus que Dieu. Quand vous aimez l'argent plus que Dieu, quand vous aimez des choses plus que Dieu, c'est là où nous bloquons l'évacuation. Parce que ça devient l'idolâtrie. Parce que là, Dieu, il s'en fout de notre péché finalement, parce qu'il veut notre cœur. Mais si on donne notre cœur à quelqu'un d'autre, c'est ça où il y a le problème. Et c'est ça où ça s'accumule après. Et il faut débloquer. Et quand on débloque, ça marche bien. Et donc, excusez-moi là, c'est un peu... pas très évangélique hein, de parler de toutes ces choses, mais qu'on puisse tirer la chasse une bonne fois ce matin. Tirer la chasse de la grâce. D'accord ? Arrose-moi, Seigneur. Et s'il y a quelque chose qui bloque, fais un effort. Ça, c'est plus dur, quelquefois. C'est là où on doit travailler. De dire, Seigneur, que vraiment par le Saint-Esprit, que tu restaures mon amour pour toi. Mon amour pour toi. Et comme j'ai dit ce matin, on a eu la victoire de la grâce ce matin. La victoire de la grâce. Allez, juste un petit verset en Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4. Voilà. Peut-être il y a le premier verset, la fin du premier verset en chapitre 4. Il y a une exhortation pour l'Église. Progressez encore! Progressez encore. Et vous savez, il y a toujours une opportunité de grâce dans nos vies. Progressez encore. Ce n'est pas la condamnation hein, quand le consolateur va venir. Mais il nous console pour aller vers la sainteté. Il ne nous condamne pas pour aller vers la sainteté. Ça bloque plus. Hein. Ça, c'est encore un blocage, la condamnation. Mais quand il nous console pour dire, allez, on peut le faire, on peut le faire. Progressez encore. Et après, verset 3, Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, que personne n'en a affaire nus envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et atteste, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà, deux choses là. Il dit l'inconduite et l'argent. Ça, c'est les deux choses où on peut aimer. On peut aimer l'argent plus que Dieu. Et ça crée un tas d'histoires. Mais ce matin, enlève tout blocage. Dis, Seigneur, je veux t'aimer. Je veux marcher dans la sainteté. Je veux marcher. On dit marcher par l'Esprit. Oui, marcher par le Saint-Esprit. Allez, il y a une troisième porte. On va terminer avec une troisième porte. C'était quoi la troisième porte? Verset 15. Il répara la porte de la source. Alléluia. La porte de la source. Ça suit un peu la porte du fumier. Parce que allez, ça, c'est la source de vie. Et je pense que moi, quand j'ai vu ça, restaurant la porte de la source, ça c'est pour nous, source de vie ce matin. Hein? Est-ce qu'on peut restaurer notre, la source, restaurant la source? Et donc voilà, on va regarder Jean chapitre 4, parce que Jésus, il a parlé beaucoup, utilisé beaucoup l'image de la source d'eau. Et quand il parlait à la femme samaritaine, quelle grâce encore! Quelle grâce, Jésus! Quand il parle à cette dame, il est là pour la consoler. Il n'y a aucune condamnation, même s'il lui dit la vérité. Hein, il lui dit la vérité. Il ne cache pas des choses, mais il parle avec amour. Parle avec consolation. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit nous parle. Et il est là avec cette femme samaritaine. Et chapitre 4 et verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit, qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Oh, merci Seigneur. Que d'un côté, là, le Saint-Esprit nous donne cette vie surnaturelle, cette vie éternelle, cette vie de qualité. Le mot vie en grec, c'est Zoé. C'est comme le nom d'une fille, Zoé. Mais c'est le. C'est pas juste la vie, la vie, je survis, je subis. Mais c'est une vie, c'est une vitalité. Et c'est la source, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette vie. Et donc voilà, la porte de la vallée, c'est l'Esprit qui console. La porte du fumier, c'est l'Esprit qui sanctifie. Et l'Esprit de la source, c'est l'Esprit qui remplit. C'est l'Esprit qui remplit. Soyez remplis du Saint-Esprit, il dit en Éphésiens. Soyez remplis de l'Esprit. Avant ça, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Et donc moi, j'aime bien cette image, parce qu'il utilise le mot quand même, enivrer. Et donc, tu sais, il dit, voilà, le vin peut vous enivrer. Mais il dit, mais combien plus le Saint-Esprit peut vous enivrer? Soyons intoxiqués par le Saint-Esprit. Une bonne intoxication. Moi, je veux être... pas alcoolisé, mais c'est pas Saint-Esprit-isé. Je vais aller, je vais dire, voilà, j'ai un problème avec le Saint-Esprit, je bois trop. On peut faire anonymement, hein, tu sais, les Saint-Esprits anonymes, voilà, ça fait. Mais nous, on n'est pas anonymes, hein, quand on est rempli du Saint-Esprit, on reflète Jésus. Et je dirais, mais Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit, qu'on ait cette source de vie en nous, le Saint-Esprit qui console, le Saint-Esprit qui sanctifie et le Saint-Esprit qui remplit. Et on peut regarder aussi en Jean chapitre 7. Encore, c'est magnifique. Jean chapitre 7 et verset 37. C'est Jésus, pauvre Jésus, il est obligé d'aller à une réunion pastorale. Hein, c'est avec tous les pontifes. C'est tous les grands pharisiens, il vient à un grand congrès, il dit, oh, moi j'en ai marre, je ne veux pas y aller, mais bon, il y va. Il est là avec toutes leurs lois, toutes leurs dogmes, toutes leurs religions, les grandes discussions, il parle pendant des heures, est-ce que le Messie doit venir de Bethléem, de Nazareth, etc. Ils sont en train d'étudier la parole, mais sans l'Esprit. Ils ont des études bibliques, mais vidées du Saint-Esprit, vidées de personnalité, vidées de consolation. C'est des congrès de condamnation, si tu y vas. Le plus condamné, c'est Jésus dans ces congrès. Il veut le condamner, c'est affreux. Mais bon, il y a quand même certaines personnes qui le reconnaissent. Et 37, verset 37 de Jean 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria. Et je pense que debout, il est toujours debout en 2013. Dans son église, il est toujours debout au milieu de toutes nos discussions, au milieu de toute notre théologie, au milieu de tous nos arguments. Il est toujours debout en disant, voilà, je crie. Est-ce que nous l'entendons? Il crie. Si quelqu'un a soif, voilà, Il ne veut pas la théorie, il veut répondre aux besoins. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Voilà, Jésus est la solution. Moi, je n'ai pas honte de Jésus. Jésus est la solution. Celui qui, comme on a chanté, ce roi serviteur qui a saigné sur une croix pour racheter nos péchés, qui a pleuré dans le jardin de Gethsémané, qui a pris mon fardeau, qui a brisé son cœur. C'est ce Jésus. Il n'y a pas un pasteur qui a fait ça. Il n'y a que Jésus, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut communiquer ce Jésus à nos cœurs. Il est mort pour moi. Et il me remplit de sa vie. Mais que nous venions à Jésus. Si vous ne connaissez pas vraiment Jésus, venez à lui. Venez à lui. Venez à lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Imaginez dans un désert qu'il y a un jus d'orange. Et vous avez soif. Et vous disiez, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Oui, il y a un jus d'orange là-bas. Oui, je sais, je connais tous les constituants, je sais que... Oui, mais il faut boire. Il faut boire, il faut boire, il ne faut pas juste regarder. Il faut participer, il faut recevoir, il faut mettre ça à vos lèvres. Encore, encore. J'ai demandé à Jacques ce matin, il était barman là. J'ai dit, est-ce que vous avez deux bières et deux whisky? Mais le Saint-Esprit whisky, intoxiqué là. Et, mais qu'il boive, fais le pas de foi, bois, bois, bois sa parole, bois, bois sa présence. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et là, il dit car l'Esprit n'était pas encore donné. Et maintenant, si, l'Esprit est donné. Parce qu'il dit, il n'était pas encore glorifié, glorifié sur la croix, glorifié dans sa résurrection, glorifié dans son ascension. Si, on a eu Pâques, on a eu... Le dimanche de résurrection. On a eu tout ça. Jésus a été glorifié. Et maintenant, ça veut dire que le Saint-Esprit est donné. Le Saint-Esprit est donné. Consolateur. Celui qui sanctifie. Celui qui remplit. Celui qui remplit. Qui fait jaillir la vie. Qui fait jaillir la vie. Qu'est-ce qu'il lui y prend? Il y a Philippe ce matin, il m'a dit, allez Robert, tu dois prendre le vitamine B, fais un cure de vitamine B, ça va reconstituer ta peau et tout. C'était un bon conseil et je vais le faire peut-être. Mais là, encore plus, je veux vraiment faire une cure du Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, viens, remplis ma vie. Je veux que ça soit l'eau vive en moi, l'eau vive qui me donne la vie, Seigneur, qui me console dans ma vallée, qui me sanctifie, qui me donne la victoire de grâce contre le péché. Et qui me remplissent, qui me donnent une vitalité, une puissance dans ma vie. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Qui allaient recevoir. Mais maintenant, nous avons reçu. Nous qui croyons en lui, nous recevons maintenant le Saint-Esprit. Et donc voilà, juste pour terminer, peut-être on peut... Peut-être fermer nos yeux et peut-être mettre juste les deux paumes ouvertes comme ça devant nous. Et je vais juste faire une prière très simple, de dire Seigneur, je veux recevoir et boire maintenant. Et il ne faut pas s'attendre à... Voilà, le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance, une personnalité. Et je pense que sa personnalité est déjà donnée dans sa parole. Vous l'avez déjà reçue, mais on va concrétiser ça pour... Cette personnalité qui va nous bénir. Peut-être il va aussi nous faire trembler un peu, on ne sait jamais. Mais voilà Seigneur, je veux recevoir, je veux boire, je veux croire, je veux avoir ce renouveau du Saint-Esprit dans ma vie. Et donc Seigneur, nous voici, les mains ouvertes devant toi. Seigneur, nous sommes ceux qui ont soif de toi. Seigneur, nous avons soif de toi et nous venons à toi et nous voulons boire. Seigneur, j'ouvre grand mon cœur et je bois Jésus, je bois ta personnalité, consolateur, oh console-moi dans ma vallée Seigneur, Seigneur que je sente ta houlette, ton bâton avec moi, ton réconfort Seigneur, sanctifie-moi ce matin,
Donne-moi de pouvoir te plaire par une vie sainte. Seigneur, merci que je puisse vraiment évacuer tout ce qui ne te plaît pas dans ma vie. Merci, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que je veux recevoir ton esprit. Je reçois maintenant. Je crois en toi, Jésus. Et je reçois, je fais le plein. Je fais le plein pour toute cette semaine. Je fais le plein pour ma vie. Et donc, viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, restaure nos portes. Restaure la source, Seigneur. Restaure nos vies. Visite-nous maintenant. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Remplis-nous de vie. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous. Oh, merci. Console-nous. Ouvre une porte d'espérance dans ma vallée de problèmes. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. Que le sang me lave, Seigneur. Applique, Saint-Esprit, le sang de Jésus sur mon cœur. Seigneur, Seigneur, je veux qu'une source jaillisse en moi jusqu'à la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen.